Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqarah. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran salue la déclaration de l'Union africaine qui appelle à la fin des crimes israéliens. Plus de 70 civils ont été tués dans les frappes israéliennes à Gaza. Et un navire britannique visé, un drone américain abattu par les forces armées yéménites. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a salué la récente déclaration publiée par l'Union africaine qui appelle à la fin des crimes du régime israélien contre le peuple palestinien dans la bande Gaza assiégée. La déclaration a été publiée samedi 17 février lors du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a fermement condamné la sauvagerie israélienne et les attaques aveugles contre Gaza. Rassurez-vous, nous condamnons fermement ces attaques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous voulons vous rassurer de notre solidarité avec le peuple palestinien, a dit Faki, tout en accusant Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. S'exprimant dimanche 18 février, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a réitéré le soutien catégorique de l'Iran à cette déclaration. La République islamique d'Iran déclare son soutien catégorique au contenu de cette déclaration qui montre l'engagement de l'Union ainsi que des dirigeants et des nations africaines envers les idéaux humanitaires précieux concernant la Palestine, a-t-il noté. Pour Téhéran, nul doute que l'adoption permanente de telles positions de principe humaine par les États africains ainsi que par de nombreux autres pays et nations à travers le monde en soutien à la nation palestinienne opprimée resserra l'étau autour des bellicistes sionistes et de leurs acolytes. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que de telles positions ouvriront également la voie à la cessation de l'attaque israélienne contre Gaza et la Cisjordanie occupée et atténueront les souffrances du peuple palestinien. Ces commentaires interviennent au 135e jour de l'agression militaire du régime sioniste contre Gaza qui a fait jusqu'à présent près de 29 000 tués, pour la plupart des femmes et des enfants. La déclaration de l'Union africaine a été également appréciée par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Nous espérons qu'elle se traduira par des mesures pratiques de la part de tous les pays africains amis et qui conduiront à la fin de l'agression et à la guerre génocidaire contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nous appelons à rompre tous les liens avec l'entité criminelle sioniste et à soutenir la lutte de notre peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne ses droits nationaux légitimes, notamment la création d'un État indépendant palestinien avec Al-Quds pour capitale, a déclaré le Hamas. Plus de 70 civils palestiniens ont été tués par les attaques aveugles israéliennes dans la partie centrale de la bande de Gaza, qui est soumise depuis plus de 4 mois à une guerre génocidaire. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a annoncé que les frappes aériennes et d'artillerie incessantes menées dimanche 18 février par l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le district de Zubaida et sur la ville de Deir al-Bala ont fait plus de 70 victimes. Des dizaines d'autres personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été également blessées. Ailleurs, sur le territoire côtier, 5 corps, pour la plupart des enfants, ont été retrouvés sous les décombres. Dans la ville de Gaza, le régime a attaqué les quartiers de Shujaïa, Zaytoun, Tal al-Hawa et Sheikh Ijlin. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que le régime avait commis 13 massacres à travers le territoire au cours des dernières 24 heures, faisant au moins 127 morts et plus de 200 blessés. Un grand nombre de victimes sont encore ensevelies sous les décombres ou gisent le long des routes. Le deuxième plus grand hôpital de la bande de Gaza était complètement hors service, a déclaré dimanche 18 février le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. Dans une interview avec l'agence de presse palestine Al-Yaoum, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf Al-Roudja, a fait savoir qu'il n'y avait que 4 équipes médicales, soit 25 personnes, pour s'occuper des patients à l'hôpital Nasser dans la ville méridionale de Khan Younes. Il a poursuivi que la mise hors service de l'hôpital Nasser était une condamnation à mort pour des centaines de milliers de citoyens et de personnes déplacées dans la région de Khan Younes et de Rafah, arguant que le complexe médical est considéré comme l'épine dorsale des services de santé dans le sud de Gaza. Les soldats sionistes, dans un acte atroce et inhumain, ont détenu le personnel médical de l'hôpital Nasser de Khan Younes pendant de longues heures et ont procédé à l'interrogatoire. Ashraf Al-Roudja a également fermement condamné le traitement inhumain infligé par les soldats israéliens qui ont fouillé à nu des médecins et des personnels soignants de l'hôpital Nasser. Plus encore, ajoute-t-il, le régime israélien a saisi le convoi humanitaire tout juste avant son entrée dans le complexe médical Nasser, où il ne reste que 120 patients, dont certains ont besoin des soins intensifs. Le régime sioniste a arrêté un grand nombre de personnels médicaux, de réfugiés et de patients à l'hôpital Al-Amal. Ils ont également visé les ambulances et récupéré les clés d'autres voitures afin qu'elles ne puissent pas être utilisées. Les forces armées yéménites ont confirmé qu'un navire britannique a été visé dans le golfe d'Aden et qu'un drone américain MQ-9 Reaper a été abattu à Hudaïda. Les forces navales yéménites ont mené dimanche soir une opération militaire visant le navire britannique Rubimar dans le golfe d'Aden en utilisant plusieurs missiles navals, annoncé le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari. L'opération a causé des dommages catastrophiques au navire qui a failli couler. Le général Sari a réitéré que l'opération a été menée en soutien au peuple palestinien opprimé qui subit l'agression et le siège imposé par le régime sioniste et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen. Les forces armées yéménites ont souligné que dans le cadre de l'opération, elles avaient assuré l'évacuation en toute sécurité de l'équipage du navire, soulignant que tout le personnel était en sécurité. De même, le général Sari a confirmé que la défense aérienne yéménite a réussi à abattre un drone MQ-9 Reaper à Hudaïda. L'engin militaire d'espionnage américain effectuant des missions hostiles contre notre pays au nom de l'entité sioniste a été abattu à l'aide de roquettes appropriées, a annoncé le général Sari. La 60e conférence de Munich sur la sécurité s'est achevée dimanche 18 février après 3 jours de discussions sur les défis sécuritaires, au cours desquels les dirigeants occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes et leur anxiété face aux risques géopolitiques. L'organisateur a souligné un risque réel que de plus en plus de pays se retrouvent dans une situation perdant-perdant. S'adressant à la conférence vendredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la communauté mondiale est plus fragmentée et divisée qu'elle n'a jamais été au cours des 75 dernières années. Face aux défis régionaux, notamment la crise ukrainienne et la guerre à Gaza, les participants recherchaient une lueur d'espoir dans la situation mondiale actuelle. Un nombre croissant de représentants des pays du Sud ont été invités à cet événement ces dernières années. Ils ont exprimé leur point de vue sur la réforme d'un ordre mondial défini par l'Occident. Voilà, si ça achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. S'exprimant samedi lors de la conférence Munich, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, a critiqué le dysfonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que le droit de veto des 5 États n'a pas sa place au XXIe siècle. Le veto est un anachronisme qui doit disparaître, a-t-il dit, faisant référence aux États-Unis qui ont utilisé leur droit de veto à plusieurs reprises pour bloquer un cessez-le-feu à Gaza. Cela n'a pas sa place au XXIe siècle. Ce n'est vraiment pas le cas. Nous devons vraiment maintenir la pression là-dessus, a dit Martin. Le droit de veto permet aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Fédération de Russie, d'opposer leur veto à toute résolution qui ne leur plaît pas. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a qualifié les résolutions sur la situation à Gaza de faibles déplorant qu'il y ait eu plus de veto que d'action au Conseil de sécurité sur Gaza, par exemple. Pour rappel, les États-Unis se sont engagés samedi à opposer leur veto à un nouveau projet de résolution du Conseil de sécurité proposé par l'Algérie, qui appelle elle aussi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le temps est écoulé. Les menaces n'empêcheront pas l'expulsion des États-Unis d'Irak après des années d'occupation. Tous les regards en Irak sont rivés sur les négociations qui ont actuellement lieu entre les responsables américains et le gouvernement de Mohammad Shia al-Soudani visant à mettre fin à des années d'occupation militaire américaine. Le climat de ces négociations semble tendu. Une source proche des derniers développements en matière de sécurité a déclaré que la résistance irakienne avait menacé de fermer l'ambassade américaine à Bagdad, qui a longtemps été accusée d'agir comme une base militaire américaine plutôt que comme une mission diplomatique. Cela entraînerait également la fermeture de toutes les ambassades occidentales affiliées à la coalition militaire dirigée par les États-Unis si les forces d'occupation américaines rejetaient les appels populaires et croissants au retrait d'Irak. Le gouvernement irakien peut également s'attendre à des menaces de la part de Washington lors des réunions. Alors que les revenus des ventes de pétrole irakien sont versés au trésor américain dans une mesure très injuste, Washington peut menacer d'imposer des sanctions qui pourraient affaiblir le dinar irakien. Ce sinistre stratagème viserait à dégrader le niveau de vie des familles irakiennes dans le but de retourner le peuple contre son gouvernement et la résistance. Il pourrait, tour deux, comme Washington l'espère, être tenu responsable de tout dommage infligé à l'économie du pays, même si les États-Unis tirent les ficelles. La résistance irakienne attend du gouvernement un calendrier clair pour l'expulsion des forces américaines. Elle n'est pas disposée à se contenter de peu, comme de vagues assurances sur les dates de retrait. La manière dont la résistance réalise sa menace contre l'ambassade américaine n'est pas claire. Mais il semble que l'Amérique ait déjà décidé de se retirer du pays. La seule question est de savoir quand et comment. Les États-Unis sont bien conscients que leur présence militaire en Irak déplaît profondément aux citoyens irakiens. Cela était évident lorsque la Maison-Blanche s'est abstenue d'ordonner des frappes contre la résistance qui avait attaqué des bases américaines en Irak et en Syrie environ 200 fois depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, c'est-à-dire depuis le 7 octobre 2023. Mais après les récentes frappes meurtrières américaines à la frontière irako-syrienne, suivies de l'assassinat du commandant militaire irakien Abu Bakr al-Sadi à Bagdad, tout indique que rien ne reviendra à la normale pour l'armée d'occupation américaine, même si la guerre israélo-américaine contre Gaza prend fin. L'Irak se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec l'héritage du passé, tout en luttant pour un avenir plus sûr et plus stable. Le chemin à parcourir est sans aucun doute difficile, mais la force de la résistance reste une lueur d'espoir qui balise le terrain pour la prospérité du pays.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios se trouvant dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour est encore une fois le manque de démocratie finalement et de liberté d'expression dans le système occidental, puisque récemment, le petit cocher bleu sur les profils X, donc anciennement Twitter, ont été enlevés. Alors, quels sont les véritables risques d'une telle chose? Tout simplement à ce que le profil ne soit plus, ne puisse être copié et que d'autres personnes puissent nommer les informations sous le logo Presse TV. C'est un danger de médias, c'est un danger de vérité. Nous avons préparé tout d'abord un reportage qui vous résumera la situation et par la suite, nous ferons venir nos invités. Tout de suite, le reportage.
La plateforme de médias sociaux X a supprimé les coches bleues et dorées des comptes vérifiés de Presse TV et d'autres médias iraniens. Cette décision a été prise mercredi 14 février après qu'un rapport du projet de transparence technologique, un groupe de surveillance à but non lucratif, indiquait que X fournissait des services payants premium à plus d'une douzaine de comptes appartenant à des individus et à des groupes sanctionnés par le gouvernement américain. La liste comprenait les comptes des chaînes d'information iraniennes en anglais, arabe, espagnol, Presse TV, Al-Alam et Hispan TV, ainsi que ceux des agences de presse Tasnim News, IRNA, Mizan et Pat Dolat, le site d'information officiel du gouvernement iranien. Les comptes de la chaîne de télévision publique russe NTV et de la Tinkoff Bank, une banque commerciale de Moscou, ont également été cités dans le rapport, ainsi que ceux appartenant au groupe de résistance Ansarallah au Yémen et Hezbollah au Liban. Le fait que X exige que les utilisateurs payer des frais mensuels ou annuels pour un service premium suggère que le réseau effectue des transactions financières avec ses comptes. Une violation potentielle des sanctions américaines, affirme le rapport. Dans un communiqué, X a déclaré que nos équipes ont examiné le rapport et prendront des mesures si nécessaires. La suppression des badges de vérification des comptes X intervient à un moment où le lobby israélien a accru la pression sur les médias qui dénoncent les crimes d'Israël dans la bande de Gaza. La guerre a fait au moins 28 576 morts palestiniens en plus de 4 mois. Avec près de 329 000 abonnés, le compte Atsain Presse TV a été créé en septembre 2010 et vérifié en août 2016. Il arbore une coche dorée. Palestine Declassified, une émission de la chaîne, avait également le compte X avec une coche bleue. Il a été créé en janvier 2022, vérifié en avril 2023 et présenté des publicités dans la réponse à ces publications.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout de suite, d'abord, nous allons présenter nos invités du jour, que vous connaissez déjà peut-être, étant donné que ce sont des intervenants réguliers avec la chaîne Presse TV français. Tout d'abord, Maître Arnaud Develé, notamment prise de parti et expert pour la question russo-ukrainienne, mais également du Moyen-Orient. Maître Develé, ravi de vous avoir avec nous. Alors, le son de Maître Develé ne vient pas jusqu'à nous. Alors, notre deuxième invité, étant donné qu'il est déjà là, Monsieur Bernard Cornu, alors militant, je ne vous présente plus, militant pour la cause humaine, j'ai envie de dire, puisque, bien que la Palestine soit votre sujet, surtout depuis récemment, vous avez toujours été pris à partie lorsque le militantisme en avait besoin. Monsieur Cornu, ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, Monsieur Cornu, alors cette petite coche bleue, pour certains, pourrait sembler ne pas être très, très important. Et pourtant, il pourrait en avoir, sachant que Presse TV a ouvert aux alentours de 2010. Si les gens connaissent un peu les calendriers du planning du Moyen-Orient, c'est là où commençaient pratiquement toutes les grosses guerres du Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui, donc 2024. Donc, quand on parle de grosses guerres, on pense à la première invasion des États-Unis en Irak, la deuxième invasion des États-Unis en Irak, la montée en puissance de Daesh ou de ISIS, Bref, beaucoup de choses sont arrivées au Moyen-Orient entre 2010 et aujourd'hui, et une chaîne comme Presse TV a pu montrer des images qui étaient couvertes, qui n'étaient pas couvertes en Europe, notamment de ce qui se passait réellement au Moyen-Orient lorsque les terroristes attaquaient les villageois, lorsque les terroristes attaquaient les différentes villes également, et où également des organisations, des OGN présentées en Europe étaient finalement des organismes terroristes. C'est grâce à une chaîne comme Presse TV que des preuves ont pu être apportées. Autre chose également à déclarer, c'est que avec ce cocher bleu, on ne peut plus savoir si l'information a bien été donnée par Presse TV finalement, puisque ça veut dire que le profil n'est pas vérifié.
Oui, ces processus de coche, ce sont des processus qui garantissent la certification, l'origine des informations données. Et c'est parce que j'ai bien compris que c'est parce que cela suppose un paiement d'abonnement à Twitter, X aujourd'hui, et que c'est donc par le biais des sanctions américaines, sanctions financières américaines unilatérales, qu'on peut obliger Twitter à enlever ses coches, à enlever cette certification. Donc une fois de plus, ce sont des mesures unilatérales des États-Unis. État complètement impuni pour ses actions unilatérales dans le monde, notamment en Irak, en Afghanistan, à son soutien inconditionnel à l'État israélien lors de ses attaques massives et meurtrières et destructives sur Gaza. C'est là l'origine de cette hyperpuissance américaine qui est hors d'atteinte pour l'instant de toute mesure de justice.
Important, c'est que en fait c'est une excuse parce que soi-disant pour le profil premium, il faut mettre un compte bancaire, il faut payer. Comme ce sont des pays sous sanctions, le paiement est interdit. Et comme ils disent que c'est comme ça qu'on peut justifier qu'un compte est réel ou pas, eh bien la coche bleue a disparu. Mais il y a derrière quelque chose d'autre. On sait que c'est ce qu'on dit depuis le 7 octobre, depuis même avant le 7 octobre, où on explique que les réseaux sociaux, où on explique que les médias comme les nôtres sont finalement, c'est finalement une guerre. Il y a une guerre des médias qui se passe pour donner la vérité sur le terrain. Et donc, on peut penser que d'autres informations vont circuler avec le logo de Presse TV ou le logo d'une autre agence sous sanction et dont le cocher a été enlevé. C'est un véritable danger parce que maintenant, on pourrait dire que telle chaîne a dit ceci sans pour autant pouvoir le prouver si le profil officiel de cette chaîne ne peut plus s'exprimer.
Tout à fait, oui, c'est bien parce que ces chaînes couvrent des événements tragiques au Moyen-Orient qui sont peu rapportés par les médias français, d'une part parce que l'État israélien et son armée interdisent la venue de journalistes à Gaza. Il y a seulement quelques journalistes, il y avait quelques nombreux journalistes de la chaîne Qatari et quelques journalistes turcs de l'agence de presse Anadolu, mais très peu de témoignages directs de journalistes occidentaux. Et dans l'atmosphère actuelle, des médias tels que Jezira ou les médias turcs sont dans nos médias français suspectés de partialité, d'objectivité, et les Français n'ont donc peu d'informations. J'étais il y a quelques jours, jeudi dernier, à Marseille, j'ai lu le journal local, La Provence. Il n'y avait pas une seule ligne sur la situation à Gaza, pas une seule ligne. Et comme on le sait en France, la plupart des médias, des grands médias, à part quelques-uns qui sont indépendants, sont tenus par des milliardaires, et notamment un milliardaire qui a triple nationalité, française, hollandaise et israélienne. Donc la plupart de nos grands médias n'informent très peu sur la situation catastrophique, disons en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, et ils informent peu aussi sur la situation réelle dans l'Irak, qui a été soumis à une occupation très longue américaine, à destruction, et qui a même en difficulté, et aussi très peu d'informations sur la situation réelle en Syrie, mise à des opérations de mercenaires concertées entre la France, la Jordanie, la Turquie, l'Angleterre, les États-Unis, dans le but de changer le régime. Donc toutes ces informations-là n'arrivent pas dans les médias français et au public français.
Il y a également quelque chose qu'on peut annoter, c'est que l'Europe et notamment la France, je pense, si je ne me trompe pas, l'information date de la semaine dernière, où des chaînes sur Telegram, donc un réseau social, où une chaîne comme Telegram ont été finalement rejetées sur les adresses IP français, c'est-à-dire que toute personne utilisant un numéro de téléphone français ne peut plus aller sur certaines chaînes Telegram. Alors tout ça arrive au même moment. Donc il y a la plateforme X, maintenant la plateforme Telegram, tout ça pour empêcher finalement des plateformes d'indiquer d'autres vérités pour que les Européens puissent ou les Occidentaux puissent finalement, parce que c'est eux qui sont finalement visés par ce genre de brimade de la liberté d'expression, leur empêcher de savoir ce qui se passe réellement en dehors de leur continent. Alors c'est un danger parce que nous avions prouvé, je pense que vous étiez avec nous, monsieur Bernard Cornu, que grâce à l'actualité et grâce aux réseaux sociaux, le Moyen-Orient avait réussi à prouver qu'il n'y était pour rien pour tous ces tragiques événements qui sont arrivés dans la région. C'était dû à une influence directe et même un travail direct sur leur territoire d'éléments étrangers. On pense à la guerre en Irak, on pense également au printemps dit arabe. Ce sont des effets, maintenant c'est grâce à ce genre de réseaux sociaux, c'est grâce à ce genre de plateforme d'investigation, comme celui de monsieur Michel Collomb, que finalement on arrive à savoir plus ou moins ce qui se passe. Le fait de ne pas permettre aux Occidentaux de savoir la vérité, c'est quoi le danger finalement ?
Ben, le danger, c'est que nos médias, notre grand public, nos publics, notre opinion soient très mal informés et que donc les intentions de certains dirigeants qui poussent à la guerre, qui ne veulent pas la remise en cause de leur politique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, manipulent ainsi l'opinion qui est peu informée. Et moi-même, je pratique très peu les réseaux sociaux. Je préfère me fier à quelques sites et quelques journaux dont je sais qu'ils sont bien informés, qu'ils vérifient ce qu'ils disent et qu'ils vont à la recherche, effectivement, informations peu connues, que ce soit le site Michel Collomb, que vous citez, Michel Collomb, le journal français Mediapart, même si il y a eu parfois des déformations par des gens qui ont pénétré le système des blogs indépendants et qui propageaient une émission des vues très unilatérales sur ce qui se passait, notamment en Syrie.
Et en Libye, Mediapart a participé à un grand reportage sur la Libye et sur les dessous de ce qui s'est passé avec l'aide de l'OTAN.
Tout à fait. Oui, oui, même les médias, certains médias français que je lis beaucoup, sont parfois aussi abusés, sans vraiment s'en rendre compte, sur certains sujets comme la Syrie ou la Libye.
Merci, monsieur Cornu. Alors, notre deuxième invité, monsieur Maître Arnaud Develay, est de nouveau avec nous. Maître Develay, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à monsieur Cornu. Il semblerait que la thématique de notre émission aujourd'hui soit illustrée par un petit problème de connexion.
Alors, ça tombe bien parce que je ne sais pas si vous avez entendu le reportage que nous avions fait qui résumait un peu la situation. On expliquait que la petite coche bleue qui permettait de confirmer le profil sur X et anciennement Twitter avait été enlevée, ce qui, selon notre expert qui est avec vous, votre binôme, M. Bernard Cornu, et nous-mêmes sur les plateaux, nous avions dit que finalement c'était un danger parce qu'on ne pouvait plus confirmer les profils et donc on pouvait envisager que sur du très court terme, finalement, d'autres personnes puissent faire circuler les informations au nom, par exemple, de la chaîne Presse TV. Maître Develay, vous-même ayant suivi la guerre ukraino-russe, vous savez comment les médias ont fait du mal à la vérité, ce qui s'est passé sur le terrain. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous pensez du fait de remettre en doute un profil comme celui de Presse TV ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contexte de guerre hybride, l'information est au centre, bien sûr, des points de vue qui peuvent s'affronter. Ce n'est pas juste un conflit militaire, c'est un conflit informationnel, c'est un conflit pour établir le narratif qui s'impose, hein, et pour ainsi dire garder les populations captives. Lorsque vous avez et c'est le cas maintenant depuis, on va dire, l'intervention russe en Syrie, un plan qui semble se déliter petit à petit. Le réel fait son éruption dans ce qui semblait jusqu'à présent un plan parfaitement bien conçu. Je parle du plan occidental, si je puis dire, remodeler des régions entières selon leur desiderata. Forcément, ils se retrouvent sur la défensive, et c'est maintenant donc les pourvoyeurs d'informations eux-mêmes qui deviennent des cibles au même titre que le personnel militaire sur le terrain, puisqu'ils sont considérés comme étant des agents dits de désinformation, voire des agents payés par les entités administratives du camp adverse. Et partant de là, on assiste effectivement à une censure de masse. Alors après, vous parliez des comptes Twitter, enfin des comptes ex du groupe du groupe média venant de l'Iran, mais c'est aussi le cas des canaux Telegram qui réinforment sur le conflit en Ukraine et qui, pour peu en tout cas, puisque ce qui nous importe c'est la France, ces comptes vous soient accessibles du fait que vous ayez ouvert votre compte Telegram avec un numéro de téléphone français. Effectivement, les opérateurs français sont enjoints par les autorités françaises de déconnecter ces canaux. Mais vous savez comment ça se passe, l'information elle est très fluide, il y a toujours des possibilités avec des sites miroirs, des comptes miroirs, de contourner la censure, et donc en fait c'est un aveu de faiblesse, et c'est pas seulement la France pour le coup maintenant qui exprime son désarroi, c'est aussi l'Occident collectif, puisqu'on peut voir au travers de ce qui a été par exemple mis en avant lors de la conférence sur la sécurité à Munich ces trois derniers jours, que l'Occident, dans sa façon de communiquer, télégraphie presque ses stratégies de communication, puisque on a l'incident qui implique Navalny, qui n'était absolument pas un facteur, dont la mort en aucun cas rationnellement profitable au pouvoir russe. Et pourtant, on a vu un peu l'Occident collectif se précipiter presque de manière un peu gauche dans ce narratif, en présentant la veuve de l'intéressé comme par hasard dans les 12 heures lors de cette même conférence, un peu comme un adoubement. Et donc, si vous voulez, ça commence à se voir.
Une veuve qu'on n'avait jamais vue auparavant dans les médias. C'est-à-dire, elle n'avait pas de compte de réseaux sociaux où il y avait des followers qui la suivaient suite à l'emprisonnement de son mari. Je pense même que son visage était inconnu au bataillon. Et c'est vrai que les images sont arrivées dans les 24 heures de l'annonce, dans les 12 heures, comme vous voulez dire, c'est même pire, de l'annonce du mort de la personne. Alors, je veux revenir sur le dossier Telegram pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi. Certaines chaînes ont été supprimées sur le réseau Telegram pour ceux qui ont un numéro de téléphone français. C'est-à-dire que toute personne ayant ce numéro-là, soit il doit passer par un VPN, soit il doit espérer qu'un autre canal Telegram ait fait qu'il ne soit pas sur cette liste pour pouvoir accéder à cette même information. Parmi elles, il y avait, si je ne me trompe pas, RT. Et puis, Presse TV français n'a pas été touché, mais dans tous les cas de figure, beaucoup de chaînes qui présentaient des informations russo-ukrainiennes, elles ont été bloquées pour le territoire français. Maître Develet, vous avez dit dans votre expertise, dans votre narratif, que ça semble être une preuve de défaite. Je me trompe en interprétant ça, vos propos comme ça. C'est une preuve de défaite de voir que des chaînes comme Telegram ou des réseaux sociaux tels que X veuillent s'en prendre aux médias afin d'éviter que le narratif sorte des mains de la souveraineté occidentale.
Non, effectivement, vous avez bien résumer mon analyse, c'est qu'effectivement c'est un aveu d'impuissance parce que quelque part, plutôt que d'engager le débat sur le fond avec des arguments empiriques, objectifs, que tout le monde puisse constater de visu, on assiste à une censure de masse. Alors soit c'est un narratif complètement rocambolesque, soit c'est carrément effectivement la suppression de toute opinion alternative au discours ambiant, ce qui nous rappelle ce qui se passe souvent avec des régimes qui sont sur le point de s'effondrer. Et ce qui est un peu inquiétant quelque part, c'est que cette technique est utilisée pour justifier tout d'un coup une fuite en avant qui laisserait entendre que les gens qui sont placés, je dirais, et non pas élus, mais placés en Occident, ont reçu tous plus ou moins la même feuille de route qui est celle d'une surenchère maintenant, puisqu'on parle d'augmenter la production d'armement, s'adapter à une économie de guerre, préparer un conflit dans les 2-3 ans à venir. Donc c'est quelque part aussi, alors on peut penser que c'est une façon aussi, cette fois-ci ça s'adresse à leur population, dans le sens où comme les choses vont mal...
Ça fait penser à une dictature, Maître Develay, Monsieur Cornu, qui sont avancés. Ça fait penser à une dictature, ce genre de décision et de vision de la situation actuelle.
C'est une manipulation de l'opinion qui n'entend qu'une partie de l'argumentation. Et on ne montre pas, par exemple, en France, beaucoup de détails sur les très grandes manifestations qui ont eu lieu dans des dizaines de villes pour protester contre l'agression israélienne à Gaza. Et donc, on montre aussi peu les manifestations qui ont lieu à Munich pour demander l'arrêt de ces dépenses d'armement, l'arrêt de ces guerres et des négociations pour mettre fin à toutes ces guerres. Il y aura la semaine prochaine, samedi prochain, une grande manifestation à Paris du mouvement de la paix pour demander l'arrêt des exportations d'armes, notamment vers Israël, l'arrêt de ces dépenses d'armement, l'arrêt de l'armement nucléaire. Et je pense qu'il y aura aussi peu d'images de ces manifestations, peu d'interviews, d'entretiens avec des responsables de ces organisations de manifestations, de ces protestations. Donc l'information est très déséquilibrée.
Merci.
J'étais à Marseille, je vous dis aucun mot dans le journal de Marseille, La Provence, alors que je me promenais dans la rue avec une écharpe palestinienne et j'ai eu beaucoup de salutations amicales de beaucoup de gens dans la rue. Donc les gens sont concernés par ce drame palestinien, veulent des informations et on leur en donne très peu.
Merci Monsieur Bernard Cornu, merci Maître Arnaud Develay pour votre venue d'aujourd'hui déjà et votre participation, le partage de votre expertise. Je vous rappelle que par exemple Maître Arnaud Develay était présent à Moscou pendant plusieurs mois, nous permettant de savoir ce qui se passait finalement au front ou même ce qui se passait à Moscou. Et Monsieur Bernard Cornu, vous l'aurez compris, est un militant qui participe aux différentes manifestations européennes. Alors je vous remercie de nous avoir suivis pour ce débat. À bientôt.
Le tourisme gastronomique en ligne. Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tentent de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne.
Bonjour chers auditeurs. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons l'intention de nous rendre en visite dans une autre ville de la province du Golestan, Aliobad Katul, pour faire connaissance avec le peuple de la ville à l'est de la province, ainsi que les aliments locaux de cette région. Restez avec nous jusqu'à la fin du programme. Aliobad est une ville avec une belle nature et de très belles perspectives naturelles et historiques. En termes de climat, Aliabad est l'une des villes la plus tempérée d'Iran, située à 40 km à l'est du chef-lieu de la province du Golestan, Gurgan. La cascade de Kaboudval, qui est la plus haute cascade d'eau mousse du monde et la seule cascade d'eau mousse en Iran, est située dans les belles forêts d'Aliabad. La cascade de Kaboudval se trouve à 5 km de la province du Golestan. L'eau de cette rivière provient des sources du sud et est potable. La chose remarquable pour les voyageurs dans ce domaine est qu'il y a suffisamment de plateformes et de tentes adaptées pour les individus et les groupes sur le chemin de la cascade. Cette région attire les amoureux de la nature en été comme en vacances. Il y a de nombreuses petites et grandes cascades le long de la rivière Kaboudval. En outre, sous chaque cascade, il y a des piscines intéressantes que certains gens de la région utilisent pour nager. La cascade de Kaboudval est considérée comme l'attraction touristique la plus importante. Son eau est claire et transparente. Parmi les autres attractions naturelles de cette ville, on peut citer la présence de forêts d'ifs dans cette zone qui constitue l'une des plus grandes réserves d'ifs au monde. Mais d'un point de vue historique, il faut dire que l'histoire de la région d'Aliabad-Katul remonte à 7000 ans et les archéologues ont découvert de nombreux sites et monuments historiques dans cette région. Les tribus Katul vivent dans la ville d'Aliabad, dans les zones montagneuses ainsi que dans les villages autour de la ville. Les villages les plus importants de cette région comprennent le village de montagne de Nersu, Farsian, Barftan, Siahrudbar, Muhammadabad, etc. Le peuple de Katul a leur propre culture et leur propre tradition, des vêtements locaux, à la musique et au chant, en passant par l'artisanat et la cuisine locale. Le port de vêtements locaux était courant dans le passé, mais de nos jours, les vêtements locaux sont principalement portés lors de cérémonies et de fêtes spéciales. La tenue locale des femmes de cette région est une chemise rouge avec des décorations spéciales accompagnées d'une jupe et d'un chapeau, de foulards fleuris. Et la tenue locale des hommes est une blouse blanche avec un gilet, un pantalon noir, avec un chapeau rond noir et des pantoufles. De plus, le peuple de cette région septentrionale du pays a sa propre musique, très audible et réconfortante. Les chansons katulies sont chantées sous forme de disiques, sans cadre littéraire particulier, dans les cercles et les cérémonies. Ces chansons sont populaires et attrayantes parmi la population de la région et font partie des caractéristiques culturelles de cette région. Parmi les instruments les plus importants utilisés dans la musique katulie, on peut citer le dotore katulie, le ney katulie qui est une sorte de la flûte, et le violon. La région d'Aliabad-Katul, dans la province du Golestan, est située au milieu des montagnes boisées et les habitants de la ville bénéficient de nombreux avantages naturels en raison de sa proximité avec cette région. Les autochtones font bon usage de ces bénédictions naturelles et préparent une variété d'aliments délicieux avec les fruits et plantes propres de cette zone verte. Fruits de bois tels que néfliers, aubépine, barbérie, prune, etc. Le néflier est l'un des fruits forestiers les plus appréciés dans cette région. L'origine principale de cet arbre et l'Iran et l'Asie du Sud, qui a atteint l'Europe via les Roumains, en particulier les pays bordant la mer Noire. L'un des avantages les plus importants du néflier est sa teneur élevée en antioxydants qui résistent aux radicaux libres et protègent l'organisme du cancer, est également très utile pour traiter la cataracte et le diabète. Par ailleurs, il est très efficace pour prévenir les maladies neurologiques et de mémoire, comme la maladie d'Alzheimer. Comme mentionné, le néflier est prescrit aux patients diabétiques pour contrôler la glycémie à de nombreuses utilisations. Les fibres présentes dans son fruit savoureux maintiennent le taux de cholestérol normal et sont donc bénéfiques pour les patients cardiaques et augmentent la combustion des graisses. En plus de le consommer cru, la population locale utilise également le néflier pour préparer des cornichons, des pâtes et des boissons fraîches. Auparavant, nous avons parlé des propriétés de fruits et de bois du néflier et maintenant nous allons vous parler des aliments locaux des habitants d'Aliabad Katul. Des aliments tels que tochou, qui est un type de soupe, des types de pilaf tels que tochi polo, moche polo et solof khoresh ne sont qu'une partie des plats délicieux et variétés des habitants d'Aliabad Katul. Comme nous l'avons dit au début de l'émission, les habitants de la région utilisent beaucoup de produits naturels trouvés dans les montagnes et les forêts de la région de Katul et préparent de délicieux plats avec eux. L'une de ces plantes est la plante solof qui appartient de la famille des épinards et que l'on trouve en abondance. Les habitants de la région d'Aliabad Katul préparent une sorte de ragoût avec la plante de solof, connue sous le nom de solof khoresht. Pour préparer ce ragoût local, on a besoin d'un kilo de plantes de solof, un verre de haricots, un verre de haricots mungo, quelques gousses d'ail, quatre verres d'eau, du jus de grenade, un pot d'huile, du sel et du poivre. Avant de commencer la cuisson, on fait d'abord cuire les légumes dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes jusqu'à ce que les légumes changent seulement de couleur. On peut utiliser des épinards à la place du solof. Ensuite, on fait également cuire les haricots à l'avance pour réduire le temps de préparation des aliments. Maintenant, il est le temps de préparer ce délicieux ragoût. Dans un récipient, on fait revenir l'ail avec un pot d'huile et on y ajoute les haricots mungo. Puis on ajoute les haricots, on fait revenir un pot les deux. Puis on ajoute le légume et du solof aux ingrédients et on fait bien frire avec le jus de grenade. Enfin, on ajoute du sel et du poivre jusqu'à la quantité désirée. Enfin, on ajoute 4 verres d'eau dans le ragoût et on le laisse cuire complètement à la bonne température. Puisque la plante utilisée dans le ragoût est le prédécesseur de la famille des épinards, contient beaucoup de fer et constitue un aliment très nutritif et riche en diverses vitamines. Chers auditeurs, notre visite dans la province du Golestan est terminée. Une province avec différentes tribus iraniennes et des plats délicieux et agréables. Dans le futur programme, nous vous ferons découvrir la province voisine du Gilan et découvrirons la capitale du tourisme gastronomique de l'Iran et ses types de nourriture. À la semaine prochaine. Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.